Chapitre 7. Elles attendent le mariage. Elles l'avoueraient si elles étaient sincères, mais elles sont trop bien élevées pour être sincères, faisait Lucien Escandier d'un ton moitié railleur, moitié sérieux, allongé sur son pliant de coutil et les deux mains jointes derrière sa tête, dans l'épaisse torsade de ses magnifiques cheveux bruns, sa seule beauté. Ferdine n'osa rire franchement, comme elle l'eût voulu, voyant que les trois sœurs de Lucienne avaient l'air fort choquées. Louise Miserlet, surprise du tour que prenait la conversation, ouvrait tout grand ses yeux candides, qui, d'ailleurs, n'étaient point très grands. Il était 4 heures de l'après-midi, et elles prenaient le thé toutes ensemble sous la véranda, 6 jeunes filles fort dissemblables de caractère et de position, mais toutes instruites et cultivées, et aussi accomplies que peuvent les rendre 2 ou 3 années d'un pensionnat élégant. Lucienne était l'aînée des demoiselles Escandier. Elle avait 22 ans et en paraissait davantage à cause de ses airs sarcastiques et de la simplicité « nihiliste », disait Jeanne-Marie, de sa mise. La cadette, Julotte, avait 19 ans. Lucienne, qui était dans la maison la grande instigatrice de tout, la fournisseuse d'idées et la force motrice, pour ainsi dire, avait déclaré un beau jour, au déjeuner de midi, qu'il conviendrait d'inviter Mademoiselle Arvoine et son amie Mademoiselle Miserlet à venir prendre le thé de 4 heures sans cérémonie pour faire connaissance entre jeunes filles. Louise Miserlet nous en saura gré plus que de toute autre chose. La moindre attention que nous aurons pour son amie comptera double. Nous sommes de nouveau venus, nous avons à prendre pied, et Madame Miserlet est la plus grande dame du pays, malgré son nom peu aristocratique. Son nom de jeune fille était Mademoiselle de Didier de Château-Pointu, prononça Madame Escandier, qui parlait rarement et ne le faisait jamais que pour énoncer des vérités incontestables. J'aurais cru, dit son mari, qui néanmoins ne se tourna point vers elle, mais vers Lucienne, j'aurais cru qu'il eût été plus convenable d'inviter d'abord Madame Miserlet avec les 2 jeunes filles et quelques personnes du voisinage à un dîner tant soit peu cérémonieux. Madame Miserlet n'accepte jamais d'invitation à ce que nous ont dit ses cousins Gousset. Et dans la visite que toi et maman lui avaient rendue, elle n'a pas eu l'air disposée le moins du monde à faire de Château-Pointu un centre d'hospitalité. Je ne crois même pas, fit Madame Escandier de son air d'oracle. Un très bel oracle, à la figure ovale et pleine, aux brillants bandeaux noirs. Je ne crois même pas qu'elle ait une chambre présentable. Celle où l'on nous a reçus, au 3e étage de la tour, et quelle terrible spirale pour y monter, n'est pas un salon, mais une chambre à coucher. J'ai entrevu un lit derrière un paravent. Paravent splendide à la vérité. Madame Miserlet est fort étrange, reprit Lucienne. Si nous l'effarouchons par trop de cérémonies, elle se retranchera derrière ses créneaux, et bonsoir. Si, au contraire, nous invitons les jeunes filles à de petits thés gentils, elles accepteront. Cette politesse est facile à rendre, on nous la rendra, et nous aurons alors mis le pied sur la terrasse de Château-Pointu. Qui vivra, verra le reste. Madame Escandier glissa vers sa fille un regard d'admiration silencieuse. Les 3 autres sœurs approuvèrent. Monsieur Eugène demanda si l'on ne risquait point de se mettre sur un pied de familiarité trop grande avec une jeune personne, très bien assurément, mais qui n'était cependant qu'une employée. De plus, ajouta son père, il y a là une question de règlement. Le travail de Mademoiselle Arvoine ne finit qu'à 6 heures et je n'accorde aucun congé pour des motifs futiles. 1 heure de temps perdu, c'est une brèche à la discipline des bureaux. Et c'est aussi de l'argent perdu, fit Julotte, secouant sagement sa jeune tête. Charmante petite âme, cria Lucienne. Julotte devint rouge comme un pavot, car elle ne savait jamais si sa grande sœur se moquait d'elle ou non. Sans Mademoiselle Arvoine, vous n'aurez pas Louise Miserlet, dit Lucienne. Elles ne font qu'un. Inviter Louise et négliger son amie, ce serait nous aliéner à tout jamais les dames de Château-Pointu. La vie de Lucienne prévalut comme toujours, parce qu'elle avait de l'esprit pour défendre ses idées et de l'énergie pour les mettre à exécution. On fit donc connaissance en buvant de thé dans de petites tasses jolies mais modernes, et Louise, qui aimait à donner, se demanda, rougissant jusqu'aux oreilles, si elle offenserait les demoiselles Escandier ou si elle leur ferait plaisir en les priant d'accepter six délicieuses tasses de vieux nion qu'elle avait entrevues dans une cassette au grenier la dernière fois qu'elle y fureta. On causa de toutes les choses qui sont sous le ciel. Jeanne-Marie, à un certain moment, remarqua que Louise et Ferdine portaient deux bagues pareilles et demanda si, dans le pensionnat où elles étaient, régnait aussi la mode des fétiches. Dans celui des demoiselles Escandier, il fallait absolument que deux amies portassent chacune un objet semblable, peu apparent, remarqué seulement de l'ami, une petite chaîne au cou sous le corsage, ou bien une épingle d'écaille dans les cheveux, ou une médaille dans la poche. On appelait cela un fétiche ou un gris-gris, et l'on s'engageait à le baiser chaque soir. Aussitôt, tous les chers souvenirs de pension, si frais encore et si riants, se réveillèrent. Il se trouva qu'Isaline Monnier, la savante, l'égyptologue de bonne grâce, était une cousine des jeunes Escandier. On parla d'elle, maintenant à Alexandrie, institutrice dans une famille anglaise, très savante aussi. Ferdine s'anima en causant de bonne grâce, et quand le nom de sa chère et exquise grande amie, Mademoiselle Octavie, fut prononcé, elle et Louise échangèrent un regard qui signifiait beaucoup de choses. Lucienne avait entendu parler de Mademoiselle Octavie et demanda si elle était vraiment aussi charmante et distinguée qu'on le prétendait. Une légende assurait qu'aucune élève, si rebelle ou insensible qu'elle fût, ne quittait Bonne-Grâce sans avoir ployé le genou devant Mademoiselle Octavie. « C'est vrai et c'est faux !» cria Ferdine. « Mademoiselle Octavie ne cherche rien pour elle-même. Tout son charme, toute son influence, elle les met au service du bien. » Elle veut gagner ses élèves à la cause du bien, et quand on l'aime, elle, quand on l'adore, quand on la prend pour modèle, elle dit « Cherchez votre modèle plus haut. » Ce qu'elle désire pour chacune de ses élèves, c'est une vie utile, et quand une jeune fille quitte la pension, Mademoiselle Octavie la supplie d'employer pour le bien, et sans tarder, tous les dons qu'elle possède. Un regard expressif de Lucienne arrêta ici Ferdine, qui rougit légèrement et poursuivit « Non, je n'ai pas encore fait grand-chose. J'ai pris soin de mon cher père, j'ai cherché à lui rendre le chez-soi agréable. Maintenant, je gagne ma vie, mais je n'oublie pas. » Un peu émue, elle se tut. Sa main chercha celle de Louise, car Louise savait, car tous les souvenirs de ses deux amies étaient en commun, et c'était ensemble, le cœur rempli d'une même émotion, d'une même promesse, qu'elles avaient dit adieu à Mademoiselle Octavie. « Moi non plus, » dit Louise humblement. « Je n'ai pas encore fait grand-chose. Ferdine, au moins, travaille. » Ce fut alors que Lucienne scandalisa ses sœurs, comme jamais encore elle ne les avait scandalisées, en prenant l'attitude nonchalante que nous avons décrite plus haut, et en disant d'une voix toute unie, comme si elle eût dit « Donnez-moi un verre d'eau. » « Cette Mademoiselle Octavie doit être une personne originale. » Dans notre pensionnat à nous, on enseignait qu'une jeune fille, son éducation finie, n'a plus qu'une chose à faire, attendre le mariage. C'est ce que nous faisons, nous quatre, et nous nous ennuyons joliment à attendre. Jeanne-Marie, Idonie et Julotte poussèrent à la fois un grand cri de protestation. Lucienne ne fit qu'en rire et poursuivit. Si elles étaient sincères, elles l'avoueraient, mais elles sont trop bien élevées pour être sincères. Il n'y a que moi dans cette famille qui ose dire les choses. » Julotte se leva vivement et vint par derrière mettre ses deux mains sur la bouche de Lucienne, qui se défendit contre ce bâillon, protesta par des exclamations étouffées, et un joli petit combat s'ensuivit. À peine libre, Lucienne recommença. « Nous sommes entre nous et je ne vois pas que je déshonore mon sexe en disant la vérité. » Moi, une fois sur ce sujet, j'abonde, surtout quand j'ai là, par hasard, deux personnes intelligentes pour m'écouter. « Merci du compliment !» crièrent ces trois sœurs. « Et je prétends, » continua Lucienne, balançant sa petite pantoufle au bout d'un pied chaussé de soie gris-perle, « je prétends que la bénédiction qu'on nous donna à notre départ de la pension signifiait implicitement ceci. » « Allez maintenant, mes chères filles, et puissiez-vous bientôt, grâce au charme que vous avez acquis dans cette maison, trouver chacune un mari. Pour tuer le temps dans l'intervalle, employez vos petits talents d'agrément. C'est pourquoi, étant monté chaque matin sur notre tour pour interroger l'horizon et demander plaintivement « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Nous en redescendons, l'air déconfit, et nous nous appliquons le reste du jour à nos broderies. Idoni écrit aussi des vers dans un bel album, Jeanne-Marie change de dada tous les 15 jours, Julotte fait des confitures pour s'entretenir la main, et moi, n'ayant pas d'autre talent, je me moque de tout le monde. Ce qui revient à dire, fit Jeanne-Marie, que nous nous conduisons fort raisonnablement, comme toutes les jeunes filles de notre condition. Ce n'est pas toujours très amusant, à la vérité, mais que ferions-nous d'autre ? J'imagine parfois, dit Lucienne, devenant sérieuse tout à coup, que c'est un péché de gaspiller ainsi sa jeunesse. Voilà 4 ans que je suis sortie de pension, moi, 4 années perdues. Je n'ai fait de bien à personne, je ne suis pas devenue meilleure. Bien au contraire, dit Julotte, hochant la tête. Écoutez-la, c'est le verdict de ma famille, fit Lucienne, d'un air à la fois ironique et triste. Je vous dirai néanmoins, puisque je suis en vaine d'épanchement, comment je comprendrai l'existence. Je voudrais faire quelque chose d'utile et qui m'intéressa beaucoup. Je voudrais, le soir en m'endormant, pouvoir me dire « je n'ai pas perdu ma journée ». Je voudrais, le matin en m'éveillant, sentir une grande joie parce qu'une journée nouvelle est devant moi. Je voudrais fonder une association des jeunes filles utiles. « Quelle idée admirable !» s'écria Ferdinand.